n'oubliez surtout pas que ce soir, Centre Vidéotron, c'est la soirée, le match Boulevard 102-1. Les Remparts contre les Sea Dogs. Match quand même important ce 23 février pour la course aux séries. C'est intéressant, c'est le fun. Rajoutons à tout ça que les trois accords seront en performance d'après-match dans le hall d'entrée. Et on va jaser avec Charles Dubreuil un petit peu plus tard, là, autour du 9h10, 9h15. C'est le batteur des trois accords. Mais pour le moment, pour jaser Remparts, pour jaser hockey, pour jaser sport en général, Kevin Dubé est avec nous du Journal de Québec. Kev, comment ça va?
Très bien, très bien. Parlons des vraies affaires. Là. Tu sais, le conflit des motards, c'est le fun. Là.
Mais
c'est
quelque chose, hein?
Parlons de ce qui compte pour vrai, le hockey. Là.
Mais tu sais, le pire, c'est que tu viens de m'ouvrir la porte pour une mini-parenthèse. Tu as eu un petit message d'un contact au SPVQ.
Ouais, que en gros, ce qui est dit, là, c'est que ça va faire du bien. On va prendre l'aide qui vient d'ailleurs parce qu'en ce moment, on est débordé par tout ce qui se passe dans la région de Québec.
Parfait. Puis merci pour les infos à cette dite personne. Kevin Dubé, je te lance des fleurs pour commencer. Continue ton excellent travail dans le journal. Tu sors toujours des trucs qu'on apprend directement. Appelons ça en primeur, des scoops. J'ai adoré justement ton texte sur Patrick Dome, directeur général du tournoi Pee-Wee, et c'est dans ton texte que j'avais appris qu'on commençait tranquillement la transition pour son remplacement ou sa remplaçante. Pour ce qui est de, quoi, dans 2 ou 3 ans au poste de directeur général. Fait que, puis j'en ai parlé avec Pat Dome après. Fait que, bravo. Faut le dire. Quand, quelqu'un fait de la bonne job, faut le dire. Puis c'est le cas avec tes textes dans le journal. Fait que, continue comme ça.
Ça fait plaisir. Merci.
Commençons avec le match de ce soir. Puis peut-être, je l'ai mentionné, quand même cool qu'un match boulevard, un vendredi 23 février, pour une équipe en reconstruction, on repart le cycle, mais c'est quand même un match important pour les séries ce soir contre les Sea Dogs.
Puis c'est jamais vu là, à Québec là, que l'équipe se batte pour les séries. C'est pas arrivé depuis 1997, depuis que l'équipe est revenue, que les Remparts ont fait les séries à chaque fois depuis 1997.
C'est vrai,
ils
n'ont
jamais manqué
les
séries. Puis en ce moment, ils ne les feraient pas. Là. Fait que
D'un point. Derrière les Sea Dogs.
Exact.
Fait qu'avec une victoire à soir, on les refait.
Ah oui. C'est le début d'un cycle. C'est pas la première fois qu'on voit les Remparts entamer un cycle de hockey junior. Là. Mais celui-là, il est un peu plus dur parce que les Remparts ont gagné l'année passée avec une équipe qui était majoritairement de joueurs de 19-20 ans. Puis cette année, on n'a pas eu le choix de revenir à la base puis de recommencer un nouveau cycle. Mais on pensait que cette saison-là serait plus tranquille que l'année passée, parce que l'année passée, évidemment, il y avait un objectif clair qui était de gagner la Coupe. Mais là, cette année, l'objectif, c'est quand même de faire les séries. Puis, tu sais, Québec, les Remparts, c'est une organisation qui est fière. Je pense que tout le monde, puis l'organisation avait prévenu tout le monde au début de la saison aussi que ce serait une saison plus difficile.
Ouais.
Mais je pense pas qu'on s'attendait à ce qu'on se batte pour les séries. Je pense que Simon Gagné avait l'impression qu'il avait les éléments, surtout en première moitié de saison avec les vétérans qui restaient, pour maintenir le navire à flot et pouvoir faire les séries. Mais là, on n'est pas là. Puis c'est clair que dans l'orgueil de cette organisation-là, aussi prestigieuse, il faut le dire, c'est une organisation extrêmement prestigieuse dans la LHGMQ. On n'accepterait pas de ne pas faire les séries.
Ouais. On avait jasé justement avec Simon Gagné juste après la période, la date limite des échanges.
Ouais.
Puis Simon Gagné avait dit, les moves, oui, c'est pour l'avenir, les échanges qu'on a faits, mais c'est aussi pour faire les séries. Puis okay, le directeur général dit ça, puis tu fais comme, OK, t'sais, il veut, c'est de la motivation. Mais je pensais pas que c'était nécessairement vrai.
Ouais.
Puis là, on est le 23 février. Puis les Remparts sont à un point, puis avec une victoire ce soir contre les Sea Dogs, serait dans les séries. Fait que, dans le fond, ce que Simon disait, ben, c'était vrai, c'était quand même la mission. Oui, préparer l'avenir, mais jouer pour cette saison pareille.
Oui, exact. Je pense que dans son plan, Simon Gagné, son plan initial, c'était pas nécessairement d'échanger Quentin Miller, le gardien de but, puis le capitaine Kassim Godette.
Ouais.
Il s'est fait forcer la main, il a reçu des offres qu'il n'a pas eu le choix de refuser à la date limite des transactions. Puis après ça, ben là, tu te revires d'abord parce que faut quand même admettre que tu peux pas exposer, entre guillemets, des jeunes de 16-17 ans. Tu peux pas tout échanger tes vétérans puis recommencer avec une gang de 16-17 puis leur dire « Allez-y, les boys, puis on repart. » Ça prend des vétérans dans une équipe de hockey, puis c'est le même partout, même dans la Ligue nationale. On le voit avec les équipes qui font des reconstructions complètes. Ouais. Ça prend 6, 7, 8, 9 ans, puis même encore là, c'est difficile. Fait que ça prend des vétérans, puis je pense que c'est ce que Simon Gagné a fait en allant chercher notamment Julien Bellin à Rimouski. Mais c'est difficile quand même de rentrer des nouveaux joueurs. T'sais, c'est veux pas quand un nouveau joueur arrive dans une organisation que ça fait longtemps qu'il joue. Bélan avait passé sa carrière complète avec les avec l'Océanique. C'est difficile d'arriver dans une nouvelle organisation puis de se créer un rythme. Fait que c'est peut-être ça qui se passe présentement, mais comme je disais, les Remparts sont dans une situation très, très intéressante. Ouais. Je leur souhaite vraiment pas de pas faire les séries, mais la fin de saison, les dernières semaines vont être tellement intéressantes à cause de ça parce qu'ils vont se battre comme des diables, sans mauvais jeu de mots, là, des diables dans l'eau bénite pour faire les séries.
Ouais. C'est excitant quand même.
Très excitant.
Ouais.
Autre dossier intéressant en ce moment dans la LHGMQ, le potentiel changement au calendrier pour les prochaines années. J'ai rien vu passer ce matin ou hier soir par rapport à ça, mais semble-t-il, là, selon ce que nous disait Michael Lancette hier matin dans Le Soleil, que ça se jasait au courant de la journée, potentiellement passer de 68 à 64 matchs. Il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Il y en a qui disent super, ça va aider les jeunes pour l'école. Il y a des propriétaires qui disent « Hey, nous, c'est parce que les deux matchs qu'on perdrait à domicile, c'est des matchs qui nous aident à terminer soit un peu dans le vert, soit moins dans le rouge, parce qu'il y a des équipes qui, malheureusement, finissent dans le rouge à chaque année. » Il y a une autre école qui dit « Ouais, si tu vraiment enlever quatre matchs qui vont changer quelque chose de toute façon, comment ça t'analyse cette situation-là, toi, d'une réduction possible au calendrier de la LHGMQ? »
Je pense que si on passe de 68 à 64, moi, de la façon que je le vois, c'est que c'est comme une première étape. Ça fait longtemps qu'on en parle dans la LHGMQ. De toute façon, on est passé de 72 à 68 il y a quelques années, plusieurs années. Personnellement, je veux dire, quatre matchs, là, c'est deux. Ça serait surtout des matchs de semaine, on s'entend. Là. C'est ce que la LHGMQ veut éliminer. Là. C'est les matchs de semaine, les matchs du mercredi puis du mardi souvent, pour laisser les jeunes pouvoir aller à l'école puis se concentrer sur leurs études. C'est parfait. Mais est-ce que quatre matchs de semaine dans l'année, ça va vraiment faire une différence sur les études? 8, là, ça serait différent parce que 8, c'est évidemment, c'est le double, mais c'est aussi un match quasiment par semaine pendant deux mois.
Ouais.
Fait, t'enlèves beaucoup de hockey, tu permets aux jeunes de pratiquer plus. Évidemment, les équipes aimeraient ça aussi, pouvoir pratiquer plus, parce que souvent, ils n'ont même pas le temps de s'entraîner tellement que les calendriers sont chargés. Puis aussi aux jeunes de pouvoir respirer un peu puis aller à l'école. Je pense que c'est une première étape. Puis comme tu l'as dit, il n'y a pas juste l'aspect scolaire là-dedans. Il y a des organisations, comme tu le mentionnes, des plus petites organisations qui ont besoin de chacune des scènes qui vont aller engranger dans la saison pour pouvoir arriver à la fin de l'année. Fait que quand tu enlèves deux matchs, c'est beaucoup. Si tu leur enlèves quatre en plus, c'est encore beaucoup. Fait que je pense que là, c'est ça. Ce serait une première étape. Je pense qu'il va y avoir une annonce aujourd'hui à ce sujet-là. Je sais pas encore si ça va être quoi, là, mais ce serait une première étape. Probablement qu'on va l'essayer. On va voir, les propriétaires vont voir financièrement comment ça les impacte d'enlever deux matchs, puis est-ce qu'ils seraient capables d'en enlever deux autres. Puis on va aller. Puis Mario Cecchini, il faut lui donner là, au nouveau commissaire de la LHGMQ, il essaie des affaires.
Ah, ben oui.
T'sais, depuis qu'il est arrivé, les choses changent beaucoup. Là. Pour le meilleur ou pour le pire, on peut être d'accord ou pas avec ses décisions, mais les bagarres, c'est pas simplement lui, on s'entend. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de politique là-dedans, mais quand même, l'abolition des bagarres, on a changé le nom de la...
Oublier le nom de la Ligue.
Changer le nom de la Ligue, tu sais, pour inclure, encore une fois, par un souci d'inclusion, pour inclure les Maritimes. Puis là, on s'attaque au calendrier. Fait que c'est des choses qui étaient en discussion depuis des années sous Gilles Courteau, puis que ça avançait pas, peut-être parce que Gilles Courteau voulait conserver son rapport avec ses propriétaires. C'était une gang de longue date, puis... Ouais. Puis là, Mario Cecchini arrive avec ses nouvelles idées, puis un peu un outsider qui arrive avec des nouvelles idées. Puis on peut pas lui reprocher de pas essayer des choses.
Kev, évidemment, tu as suivi de près Patrick Roy avec les Remparts. Est-ce que tu suis maintenant un peu de loin, évidemment, Patrick Roy avec les Islanders?
Oui.
Comment tu trouves ça?
Ben écoute, c'est drôle. Je me passais le commentaire hier. C'était le running gag à la fin de l'année passée. Puis même lui, il le savait. Là, il était rouge comme une tomate. C'est un gars qui est tellement intense puis qui est tellement... tellement passionné dans l'air du banc. Des fois, je me demande s'il respire pendant qu'il coach. Là. Il était rouge 20 l'année passée. Puis tu voyais que la pression, puis il avait de la misère à respirer. Puis là, il était temps que ça finisse parce que il commençait à... Le médecin des Remparts nous l'avait dit. Là, il commence à être temps que la saison finisse parce que là, il va péter aux frettes. Là. Puis là, je recommence à voir ce Patrick-là derrière le banc parce que là, les Islanders sont à 5 points des séries. Ils ont perdu hier contre les Blues de Saint-Louis. Et Zachary Bolduc, d'ailleurs, c'est une belle histoire.
Ouais, vraiment.
Affronter son ancien joueur. Mais ils ont perdu contre les Blues de Saint-Louis. Puis tu sais, Patrick est all-in. Puis il l'a dit depuis qu'il est arrivé avec les Islanders, chaque match est un match de série. Lui, il est embauché pour faire les séries parce que les Islanders de New York, c'est une organisation qui est un peu entre deux eaux présentement. Mm-hmm. C'est une équipe qui a qui a des bons joueurs, qui pourraient espérer faire les séries, mais qui n'a absolument aucun avenir, aucune relève. Okay. Qui n'ont pas le choix de faire les séries parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour... ça va vraiment être difficile pour la suite. Puis là, on sent que là, ils commencent à sentir la pression parce que 5 points des séries, c'est une marche assez importante là, avec le nombre de matchs qui reste à jouer. Il a même enlevé son gardien hier avec 11 minutes à faire. C'était 3-0 pour les Blues de Saint-Louis. Il a enlevé son gardien puis ils se sont fait marquer le quatrième but. Fait que c'est sûr qu'il est all-in. Puis moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que là, surtout au début, parce que j'étais à New York pour le premier match de son premier match avec les Islanders, puis il y avait beaucoup de collègues de Montréal qui étaient là, puis tout le monde était super impressionné par son énergie, puis était comme, mon Dieu, il arrive, puis il passe un message, puis moi, ce que j'avais le goût de leur dire, c'est il passe pas de message, il fait exactement ce qu'il faisait à Québec, là, des pratiques comme on l'a vu faire, un mardi matin à Québec, c'était ça, là, super intense, puis crier, puis taper sur la glace avec son bâton, fait que c'est le même Patrick qu'on a vu à Québec. Puis on leur souhaite qu'ils fassent les séries. Là, c'est le fun aussi. Il est allé chercher, il a amené son chum Benoît Desrosiers aussi. Puis on leur souhaite que ça fonctionne.
C'est le fun de le voir cette saison, mais j'ai hâte de le voir en début de un camp d'entraînement, puis un début de saison, puis une saison complète avec les Islanders l'année prochaine.
On a parlé donc de LHGMQ, on a parlé de LNH. Tant qu'à faire, on va faire un autre niveau. Ligue nord-américaine de hockey, t'as sorti un texte hier soir super intéressant sur Kevin Cloutier, qui est... probablement, puis tu sais, c'est drôle, tu fais une référence à Wayne Gretzky en disant, évidemment, on compare pas à Wayne, mais dans la Ligue nord-américaine de hockey, Kevin Cloutier, c'est un peu le Wayne Gretzky au niveau des points. C'est un gars qui a une super carrière. T'sais, on a un peu l'image toujours qui reste de c'est une ligue avec des batailleurs. Mais Kevin Cloutier, c'est pas ça. Il met des points au tableau, puis c'est un gars qui aura marqué l'histoire de la Ligue.
Mm-hmm. Ouais, puis c'est fascinant parce que c'est un gars qui travaille du 9 à 5, là, comme tout le monde, puis qui joue au hockey la fin de semaine. Pis, mais c'est un passionné. Kevin Cloutier, pour les gens qui ne le connaissent pas, sûrement beaucoup de gens, c'est un gars qui a joué junior majeur dans les années 90 avec les Huskies de Rouyn-Noranda puis les Eagles du Cap-Breton. Une belle carrière quand même, là, à 19-20 ans, des saisons de tout près de 100 points. Après ça, il s'est essayé professionnel dans la défunte East Coast, qui est aujourd'hui la Premier AA Hockey League. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Puis lui, c'est un gars de Beauceville. Il a décidé de revenir chez lui en Beauce, puis d'aller jouer. À l'époque, c'était le Garaga de Saint-Georges, c'était la Ligue semi-pro à l'époque. Il n'est jamais parti. En fait, il est parti quelques années pour s'essayer en Suisse. Là, il a une petite carrière professionnelle en Suisse, mais il a joué toute sa carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey à Saint-Georges. Puis c'est le seul joueur de l'histoire à avoir atteint 1000 points. T'sais, c'est 220 quelques points de plus que son deuxième plus proche poursuivant. Puis c'est des records. Puis tu sais, quand on parlait de Wayne Gretzky, puis comme Max le dit, je le dis dans le texte, on comparera jamais Kevin Cloutier à Wayne Gretzky, là, mais toute proportion gardée, ce qu'il a accompli dans cette ligue-là, c'est à peu près ça, parce que c'est des records qu'à peu près personne pourra battre. Des gars qui il est rendu à 43 ans, puis il joue encore, première des choses. Fait qu'un gars qui va arriver à 23 ans, puis qui va jouer jusqu'à 43, 44, 45, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir fini. Je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Puis, il y a aussi le fait que quand il est arrivé dans la Ligue au début, il jouait 50 quelques matchs. Puis là, il en joue 30 quelques. Fait que, tu sais, vingtaine de matchs manquent à gagner à chaque saison. Là. Fait que qu'un gars fasse 1000 points, on va s'en souvenir comme du gars qui puis il a traversé toutes les époques aussi. Là. Il a traversé l'époque au début où c'était les joueurs les plus populaires. C'était les Matamors. Là. C'était les gars qui se battaient. Puis, il me racontait une couple d'anecdotes là, de matchs où c'est une bagarre générale. Le propriétaire envoie tout le monde dans la chambre. Il reste 9 minutes en troisième. Puis là, il est dans la chambre. Puis lui, il est là. On s'en va. Là, ça marche pas. Ils vont nous blesser. Puis on s'en va. Puis là, les gars, on se regarde dans la chambre. Puis on fait quoi? Puis là, ils ont décidé d'y retourner. Mais c'est, l'autre équipe, je pense que c'était Saint-Jean, avait pris plein de punitions. Puis on a joué à 5 contre 3 tout le reste de la troisième. Puis tout ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait en rond avec la rondelle. On se passait à la rondelle juste pour les narguer. Puis on mangeait des coups de bâton. Puis on se faisait crier des bêtises dans les estrades. Puis,
my God.
Fait que des anecdotes comme ça. Puis il a joué avec Normand Rochefort aussi à l'époque.
C'est
là,
hot, okay.
C'est un bel accomplissement pour un gars qu'on connaissait quasiment pas. Mais,
c'est un super texte, ça. Un beau portrait.
Très belle carrière. Ouais.
Disponible dans le Journal de Québec. Ouais. Kevin Dubé, allez le lire régulièrement dans le journal, justement. Mon chum, continue ton excellent travail. Merci d'être passé nous voir ce matin. Et si vous n'avez pas vos billets pour ce match, quand même important de la saison régulière des Remparts contre les Sea Dogs, c'est la soirée et le match Boulevard 102-1. Allez chercher vos billets. On veut remplir la place. Restez là après la pause. Je vous donne des billets pour Kings of Leon. Et c'est l'ultime combat des tounes à Boulevard 102. Boulevard 102.